Bonjour à toutes et à tous. Je suis Elé. Je viens de Grèce. Je suis ici avec le camarade Thomas.
Bonjour, bonjour à toutes et tous qui nous écoutent aujourd'hui.
Alors nous, on est du CIMK, Collectif Internationaliste Marseille-Kurdistan. Mais aujourd'hui, on est là pour vous parler d'une communauté squattée en Grèce qui s'appelle Prosphyika et qui est en danger d'imminente expulsion.
Oui, alors on fait partie du collectif internationaliste Marseille-Kurdistan, le CIMK. Donc c'est un collectif marseillais qui défend une solidarité avec le mouvement de libération du Kurdistan et la révolution des peuples du Rojava. Donc notre objectif un peu, c'est de faire savoir, faire connaître le confédéralisme démocratique ici en France, en Europe. En tant qu'internationaliste, on se mobilise pour défendre toutes les formes d'expérimentation de l'autonomie collective. Et l'autogestion en général comme projet politique porteur. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est présent et présente à l'antenne pour relayer justement l'appel à mobilisation pour défendre la communauté squattée de Prosfigica et ses acquis. On rappelle que c'est donc le plus grand squat d'Europe qui aujourd'hui est menacé d'expulsion. Ce qui explique aussi notre raison de nous mobiliser, c'est un lien très fort qui est entretenu sur place, donc à Athènes, dans cette communauté squattée, avec l'idéologie développée au Rojava. Donc dans sa dimension organisationnelle, il y a une place très importante qui est dédiée au mouvement des femmes, à la jeunesse, et également faisant partie de la campagne Rise Up for Rojava, à laquelle on participe aussi en tant que CIMK et membre du réseau Cyril Dan. Voilà, donc c'est une campagne qui a pour but de défendre le Rojava en Europe en attaquant les bases arrières des États impérialistes. On a la chance d'avoir aujourd'hui donc avec nous une camarade qui est grecque et qui nous vient de Prosvigica. Et tu veux nous faire un peu l'historique de cette communauté squattée
Oui, carrément. Je rebondis juste sur ce que tu as dit. C'est par rapport au lien de notre collectif en solidarité avec le Rojava. Prosfidika, c'est un squat hyper inspiré du mouvement kurde, activement en solidarité avec le mouvement kurde et dans sa manière de fonctionner, que ce soit comme le camarade a dit, dans les principes de la libération des féminités, dans la démocratie directe et dans l'écologie sociale, dans le communalisme. On va parler de tout ça dans toute cette émission. Juste pour faire un premier rappel, mais on va le faire pendant toute l'émission, par rapport à ce squat, nous organisons des soirées de soutien, même ici à Marseille. Donc la première qu'on organise, c'est le 15 mars, ça sera une projection de court-métrage en soutien à Prosfika à la base. Et le 20 mars, nous organisons une soirée de soutien avec des concerts où il y aura du rebetiko, donc de la musique populaire grecque, et les mille guitaras, qui sont les mille guitares, qui sont un groupe qui joue des musiques révolutionnaires chiliennes, le 20 mars, donc au Manifesten. Donc revenons à Prosfika. Donc Prosfika, c'est un quartier, on va dire, parce qu'il est composé de 8 grands bâtiments qui ont été construits au centre d'Athènes en 1933. Ça s'appelle Prosfyika parce que ça a été construit à l'époque pour les réfugiés de l'Asie mineure. Et donc Prosphyros en grec, ça veut dire réfugié. Donc actuellement, ces bâtiments, ils se trouvent à la Léophoros Alexandra, c'est au centre d'Athènes, c'est à côté d'Exarchia. Et c'est entre le département général de la police et le plus grand tribunal d'Athènes, Arios Paros. Donc, au fur et à mesure, après, pendant la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu une guerre civile en Grèce, il y a eu beaucoup de résistants et résistantes qui s'organisaient dedans. Et donc, il y a toujours les traces de balles qu'on peut voir encore sur les bâtiments, c'est encore très impressionnant. Et d'ailleurs, maintenant, la communauté qui s'organise aujourd'hui là-bas, elle est en train de créer un musée d'histoire, de mémoire historique par rapport à tout ça, dans les bâtiments de Prosfika. Puis, dans les années 90, l'État grec, il a voulu reprendre les bâtiments, les détruire pour construire des centres commerciaux, des garages. Et donc, ils ont racheté, mais avec des sommes très, très faibles, on va dire, les bâtiments à plusieurs habitants et habitantes de l'époque. Sauf qu'il y en a plusieurs qui ont résisté et qui ont réussi à garder les bâtiments et au fur et à mesure les déclarer comme patrimoine culturel parce qu'ils ont une architecture du mouvement de Bauhaus. Donc, faire que ça ne pouvait pas être détruit. En même temps, les habitants et habitantes ils commencent à s'organiser aussi parce qu'il y avait des narcomafias qui ont commencé à s'installer à l'intérieur il y avait un labo de meth, donc les habitants et habitantes ils s'organisent aussi pour ça. Et dans les années 2010, enfin surtout à l'année 2010, en fait, c'était des années depuis 2008 avec des énormes émeutes à Athènes, pas que à Athènes, enfin en Grèce et pas que en Grèce. Mais à Athènes, c'était le moment où en 2008, il y a un flic qui a tué un adolescent de 15 ans, anarchiste, Alexis Gregoropoulos. Et en même temps, c'était le moment des mesures d'austérité. Et du coup, toute la Grèce était dans les rues à manifester et à reprendre les rues, à lutter. Et en même temps, à s'organiser dans les différents quartiers et à créer des assemblées pour penser ensemble le lendemain et des nouvelles formes d'organisation. Donc à ce moment, se crée l'assemblée de Prosfyika telle qu'elle existe aujourd'hui, donc, qui s'appelle SICAPRO, Assemblée des Prosfyika Squattés. En même temps, elle s'inspire énormément, comme on a dit, d'autres mouvements de la gauche et des mouvements révolutionnaires dans tout le monde, que ce soit le Kurdistan, la Turquie, d'autres pays aussi. Et voilà un peu pour l'histoire de Prosfyika. Est-ce que... Oui.
Peut-être que tu peux développer un peu plus sur les structures qui ont été créées au sein de ce squat et dans quel état est-ce qu'elles sont aujourd'hui, après, je pense, 16 ans quand même de vie en communauté.
Oui, merci pour la question. Ce qui se passe, du coup, c'est que l'Assemblée se crée et c'est impressionnant à la voir, cette assemblée. Enfin, c'est une énorme assemblée où on s'organise. Il y a 27, aujourd'hui, il y a 27 nationalités avec leur langue, leur culture. Et il y a un jour par semaine où on se rassemble tous ensemble avec des traductions. Ça peut durer plusieurs heures pour fonctionner sur les bases de la démocratie directe, en fait. Et en même temps, pour répondre aux besoins de la communauté et petit à petit aux besoins de la société autour, elle crée des structures. C'est-à-dire, la première structure qu'elle va créer, c'est pour le premier besoin, c'est la nourriture. Donc, elle va créer la structure de la boulangerie qui s'appelle Berkin Elvan en honneur au jeune turc Berkin Elvan aussi qui a été assassiné par la police turque pendant des manifestations. Et après, petit à petit, il crée les structures des enfants. Moi, par exemple, c'était ma porte d'entrée, c'était la structure des enfants et d'auto-éducation. On a créé la crèche, la structure de santé, la structure de la pharmacie, une structure d'accueil et d'accompagnement des patients et patientes et de leurs accompagnants de l'hôpital anticancéreux qui se trouve juste à côté, qui s'appelle la IOSAVAS, la structure technique, la structure en Internet, la structure des femmes et des féminités. Tout ça, il y a un site saveprosfyika.org ou .com. Pardon, mais vous pouvez aller voir en plus en détail toutes les structures. Mais voilà, donc d'un côté, il y a toutes ces structures qui fonctionnent de manière autonome, mais pas indépendante, c'est-à-dire qu'elles ont leur propre assemblée pendant la semaine, elles peuvent avoir leur propre caisse, des manières de fonctionner, mais après, toutes les décisions sont ramenées à la grande assemblée de toute la communauté. Et donc là, il y a les structures pour répondre à nos besoins. Et en même temps, il y a une participation active à presque toutes les luttes des quartiers autour, des quartiers, des questions sociales. Toutes les luttes pour les squats, pour le logement, pour la santé, pour... Et Et tout ce qui est autour, tout ce qui est à niveau national, tout ce qui est à niveau local et tout ce qui est aussi à niveau international, notamment avec le lien avec toutes les organisations qui sont en lien avec Plus Vika et les campagnes aussi que, comme Rise Up for Java qu'on a mentionné, qui soutiennent activement. Et comme il y a énormément d'internationalistes aussi qui vont très souvent à Plus Vika soutenir, s'organiser avec.
Et est-ce que tu aimerais nous raconter un peu plus ta propre expérience? Donc tu nous as dit que ta porte d'entrée à toi, ça a été la structure des enfants. J'imagine que ça prend une place très importante parce qu'il y a beaucoup de familles à Plus Vika. Aux côtés de toutes les autres structures, je pense que donc il y a à peu près 400 personnes qui vivent quand même dans ce squat.
Alors, oui, il y a 400 personnes qui vivent actuellement à Plus Vika, en effet. Donc, comme on a dit, de 27 nationalités différentes. Et dans ces 400 personnes, il y a 50 enfants. Et oui, alors moi, personnellement, je suis allée par la structure des enfants. Comment ça s'est fait? Ben moi, en arrivant à Athènes, parce qu'avant, j'étais pas à Athènes pendant un grand moment de ma vie. Et en arrivant à Athènes, je voulais m'organiser. Et puis, il y a beaucoup de gens qui me parlaient de Plus Vika. Et je voyais Plus Vika à côté de chez moi. Je vivais dans un quartier à côté. Mais je ne connaissais pas plus que ça. Je n'étais pas plus organisée que ça. Et là, on me parle de la structure des enfants parce que moi, je travaille avec des enfants, j'étais intéressée et j'étais intéressée aussi d'expérimenter d'autres manières d'éducation, de pédagogie, qui ne soient pas forcément dans le système national de l'école, qui peut être des fois oppressif. Je voulais m'expérimenter et voir comment on pourrait s'organiser parce que je trouve que l'éducation, c'est... Enfin, c'est pas je trouve, mais c'est l'éducation, c'est une question très très politique. Et là, on me parle de la structure des enfants. Et ce qui se passe, c'est comme tout le monde, on me dit, il faut aller à l'Assemblée générale pour te présenter. Et là, j'arrive. Et du coup, tu te trouves devant beaucoup beaucoup de personnes qui te regardent et qui te demandent, t'es qui? Donc là, tu te présentes et tu te dis, pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui t'intéresse? Donc moi, comme ça, je commence à connaître un peu la communauté, je commence à m'investir dans la structure des enfants. Dans la structure des enfants, on fait des activités, on fait des cours de soutien. Il faut savoir que tous les enfants qui sont en Plus Vika, c'est des enfants qui sont issus de l'immigration, des familles réfugiées, de classes populaires. Et qui n'ont pas forcément... du coup, on fait du soutien. On est en lien aussi énormément avec les écoles autour.
Ouais.
On essaie de travailler avec toute la communauté par rapport à l'éducation des enfants, avoir créé des événements pour renforcer notre culture commune, c'est-à-dire que ce soit par rapport à l'immigration. Déjà, c'est quelque chose qui nous lie, qui lie énormément les enfants. Du coup, on fait des événements où... On parle de nos musiques, des cuisines. Donc moi, je commençais avec la structure des enfants. Et puis, au fur et à mesure, je rentre dans la structure du cinéma. Et au fur et à mesure, en fait, je comprends que Plus Vika, c'est quelque chose d'énorme et pas seulement une structure. C'est quelque chose qui prend du temps à comprendre quand on vient d'un milieu à l'extérieur où on a appris les choses... Un milieu capitaliste néolibéral où on a appris à aller de la maison au boulot, nos différentes activités, vivre en communauté et s'organiser vraiment organiquement en communauté, ça prend du temps à comprendre que tout est lié, en fait, il n'y a rien qui est indépendant. Toutes les décisions de structure, elles relèvent elles concernent notre structure. Par exemple, pour les enfants, un des besoins auxquels on répond avec cette structure, c'est le fait qu'il y avait besoin de l'organisation et de l'autonomisation des femmes et des féminités, sauf que il fallait faire quelque chose pour qui allait garder les enfants, par exemple, au début. Donc, il y a un des besoins auxquels on répond. Et là, grâce à ça, après, il y a la structure des... En même temps, il y a la structure des femmes et des féminités qui se créent. En même temps, Et là, petit à petit, en fait, j'avais plus le temps de... Enfin, j'essayais de faire des choses en dehors, mais ça prend énormément de temps quand même, la vie d'emploi physique. Hein. Après, j'ai commencé à vivre là-bas à la fin, avant de partir, de venir en France. Parce que au bout d'un moment, eh ben, tu réalises que c'est un quartier qui est tout le temps en autodéfense et qui est en perpétuelle attaque. En même temps, on est au centre d'Athènes. Un État néolibéral comme celui de Mitsotakis, ils ne veulent pas du tout un exemple révolutionnaire au centre d'Athènes. Donc, ça fait des années qu'ils essayent de l'enlever, comme en ce moment. Ça fait des années qu'ils essayent de faire une contre-propagande contre cet exemple vivant d'auto-organisation et d'auto-gestion. Du coup, on est tout le temps en défense. En même temps, on est, comment dire, on participe aux luttes autour. Du coup, ce qui se passe, c'est par exemple, enfin, moi, je parle de mon expérience aussi, c'est on y va au moins par binôme dans les assemblées, mais il y a énormément d'assemblées qui s'organisent tout le temps par rapport à toutes les questions sociales, comme ici à Marseille, en fait. Et du coup, on allait aux assemblées, enfin, on participe aux assemblées pour la gentrification, ou enfin, contre la gentrification, pour le logement, pour protéger d'autres squats, pour contre les pushbacks, les frontières.
Ouais.
Ouais, c'est ça. Et en même temps, il y a le... mais du coup... Il y a une participation active à tout. En fait, la lutte, ça te prend ta vie, en fait. Et en même temps, bon. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre de mon expérience personnelle ? Et puis après, il y a la communauté, il y a la ville, la communauté. Il y a... C'est pour ça que nous, il y a une des structures, on a le café de Plus Physica, le kiosque qui est devant la rue, et que c'est un café d'autogestion. Ça permet aux gens de connaître plus Plus Physica. Ça permet, là, c'est ouvert certains jours par semaine, le soir pour faire des fêtes, les matins pour faire des petits déjeuners où on invite toute la communauté, mais aussi des gens autour. C'est des appels ouverts. En fait, une vie en communauté, c'est une vie en communauté où on est tout le temps ensemble, et il y a à participer à tout. Il y a la structure pour aller faire de la récup 3 fois par semaine. Ça aussi, je participais à ça. Il y a toujours, c'est des bâtiments, il faut toujours les retaper. Il faut les... voilà.
Ouais. Tout ça a l'air très, très prenant. Autant la déconstruction et la redécouverte d'une autonomie collective et d'organisation collective au sein d'une communauté, et aussi dans sa forme d'ouverture aussi sur les luttes locales de la ville, ça a l'air d'être vraiment très très prenant. Je me rappelle à chaque fois que tu reviens de là-bas, en même temps tu es très nostalgique, et on sent que tu as mis beaucoup d'énergie dans la lutte, et que ça... Ouais. Ouais, ça a l'air très très prenant. On vous invite d'ailleurs à rejoindre l'appel pour aller retaper un petit peu les bâtiments sur place, refaire les façades. On en reparlera tout à l'heure. On va en profiter pour réitérer notre appel. Donc, soirée de soutien le 20 mars à Manifestaine, avec des concerts, de la bonne nourriture, beaucoup d'amusement. Et puis, et le 15 mars, projection. C'est où, ça ?
À la base.
On va vous remettre un petit morceau de musique, et ensuite, on reviendra avec une camarade sur place qui nous a fait un enregistrement pour développer plus sur l'actualité sur place, nationale, mais aussi très locale. et rebonjour, rebienvenue parmi nous. On remercie encore une fois toutes les auditrices et les auditeurs et Radio Galère 88.4 FM. Nous allons maintenant donc, écouter un enregistrement d'une camarade qui est sur place à Prosvigica. Elle va nous développer un peu la situation donc dans le contexte des attaques qui sont dirigées aujourd'hui contre la communauté squattée. Donc elle va développer sur les questions de gentrification, la question du logement. Voilà, j'en dis pas plus et on l'écoute tout de suite.
Et nous donner l'opportunité de parler de la situation de Prosvigica aujourd'hui. Donc je me présente, je m'appelle Susan. Je suis membre de la communauté squattée de Prosvigica, qui est située à l'avenue Alexandra à Athènes. Et donc les camarades précédemment ont déjà donné un peu un contexte de la communauté. Donc je vais essayer de rester axé sur la situation actuelle avec la répression et la lutte qu'on a commencée. Et je vais essayer d'être la plus compréhensible possible. Donc peut-être que ça s'est déjà connu. Donc pendant l'été 2025, la région de l'Attique, en toute discrétion, a mis en place, a activé un plan avec un accord programmatique qui serait un plan de répression de d'expulsion du voisinage de la communauté. En réalité, ce plan d'expulsion et de répression, c'est un plan de gentrification et du voisinage qui serait pour la réparation, la rénovation, entre gros guillemets, des quatre premiers blocs du voisinage pour en faire des logements sociaux et des logements d'hébergement pour les patients et les familles des patients de l'hôpital anti-cancer ici à côté du voisinage de Ayo Savas. Et donc voilà, ils veulent, ils veulent réprimer et expulser des logements sociaux qui sont en place depuis des années pour en créer des nouveaux, entre guillemets. Parce qu'évidemment, on sait que ce ne sera en aucun cas des logements sociaux qui sont mis en place donc, dans leur plan. Bref. Donc, on parle d'un plan avec des fonds de 15 millions d'euros, avec des fonds européens et de la région d'Attique, et qui a déjà commencé, donc l'organisation et la mise en place de ce plan-là. Et on parle des 6 premiers mois de l'année de 2026, donc on est en plein dedans. Et comme ça, je commence, j'ai donné quelques informations. J'ai envie de mettre aussi quelques contextes aussi dans la situation sociale et politique de la Grèce. Donc, en Grèce, comme dans de nombreux, en fait, partout dans le monde, la vie des groupes sociaux les plus défavorisés se dégrade de jour en jour. Donc, la santé, l'éducation dégradée et privatisée, le coût de la vie qui explose, le chômage qui est de plus en plus élevé, l'absence d'assurance, la précarité, et les situations de travail qui sont exécrables. Donc toute cette situation et le mot d'ordre également pour le gouvernement grec. C'est aussi important de mettre en lumière aussi les nombreuses bases américaines et de l'OTAN qui sont en Grèce, qui montre évidemment l'implication de la Grèce dans tous la géopolitique et les profits impérialistes qui en découlent et quelles sont les priorités. Donc évidemment, absolument pas la vie des sociétés, mais le profit et les enjeux géopolitiques et militaristes et militariste. Donc, Et c'est dans ce contexte-là aussi que ce plan-là que j'ai déjà expliqué avant s'inscrit. Une autre chose qui est importante aussi à mettre en lumière, c'est le nouveau code pénal qui est passé il y a peu en Grèce, qui est en fait tout un appareil répressif légal qui en réalité criminalise tout acte de résistance. Donc tout acte qui se mettrait à un niveau ou à un autre en opposition avec la politique mortifère du gouvernement grec sera criminalisé et sûrement mis en prison. Donc on parle de ce niveau-là. Le nombre de prisonniers est déjà en train d'exploser et de nouvelles prisons qui se construisent, et des nouveaux camps de détention aussi pour les migrants et les réfugiés, et nouveaux plans de déportation en masse. Donc on voit, on peut comprendre un peu le paysage grec, en tout cas de ce côté social-politique dans lequel on est pour le moment. Et évidemment, le profit comment on appelle ça, la création d'un paysage idyllique pour tous les touristes qui choisiront de passer leurs vacances en Grèce. Donc tout ça est mis en place et que pour pouvoir créer les plus belles plages, les plus beaux hôtels pour les touristes, tout ça avec des lois et des lois meurtrières par rapport à la situation de la population de la Grèce. Voilà, je pense que ça n'étonne que très peu. Évidemment, en parlant aussi de la gentrification, une autre chose qui se passe aussi partout dans le monde et certainement plus en Europe et qui n'est certainement pas nouveau. Donc la Grèce, ça fait des années maintenant qu'un plan généralisé de gentrification est mis en place, spécialement à Athènes, où en fait tous les quartiers du centre d'Athènes sont en voie de rénovation, que pour pouvoir en fait foutre les classes les plus vulnérables, les pauvres, les migrants, les réfugiés, et en dehors du centre-ville, et garder le centre que pour pouvoir y loger les plus riches et les touristes, et pouvoir garder contrôle sur tout ce qui s'y passe, les interactions sociales, comment on interagit, et évidemment tout ça avec le profit comme premier mot d'ordre. Et ce plan de gentrification a déjà été mis en place et a déjà expulsé énormément de personnes, des milliers de personnes de leur maison. Et on parle de ce phénomène aussi, de cette politique qui arrive jusqu'au quartier de Prosvika. Donc je pense que là, j'ai donné un petit contexte. Je vais aussi tout doucement passer sur la lutte qu'on a commencé en tant que communauté. Juste avant ça, c'est important d'être clair qu'avec ce plan de gentrification et ce plan de rénovation que la périphérie de la région d'Attique a, et en fait aussi derrière cache une décision centrale politique du gouvernement que de démanteler la communauté la communauté squattée de Prosfeika. Donc ici à Prosfeika, comme ça a été déjà, je pense, expliqué par Electra, et c'est 16 ans de vie communale, d'auto-organisation, de solidarité, où une mosaïque des classes d'oppressés s'auto-organise, répondre à leurs besoins, on construit une nouvelle façon de vivre en commun, et ils peuvent en réalité réellement répondre à leurs besoins de la vie de tous les jours. Et évidemment que ça existe, ça se met en adversaire avec la politique du gouvernement. Et c'est comme ça que le gouvernement aussi perçoit la communauté comme un adversaire qu'il faut abattre. Et c'est avec ce plan-là de ce nouveau plan de répression qui veulent y arriver. Abattre ce projet social, abattre cette communauté de lutte. Et c'est à ça que la communauté répond qu'ils n'y arriveront pas et qu'on luttera jusqu'à la fin. Et donc voilà, ça, je pense en petite intro, c'est déjà pas mal. Et donc j'ai déjà dit que la communauté a annoncé, a déclaré qu'elle protégera, qu'elle défendra et se défendra jusqu'au bout. Et donc a mis en place le plan de défense qui peut être compris sur trois axes. Donc c'est-à-dire pouvoir rassembler le plus de solidarité possible et d'être connu. Donc que les gens sachent ce qui s'y passe, savent que dans ces 8 blocs, dans ce quartier-là, il y a toute une communauté de 16 ans qui a construit tout un système aussi, qui répond à leurs besoins, qui crée aussi une proposition de société en réalité. Donc on essaye d'ouvrir ce travail-là, cette vie de communauté qui a été créée, et de pouvoir activer toute la solidarité possible, donc tous les groupes, les individuels, et les syndicats, les organisations, et j'en passe, j'en oublie énormément, mais que tout le monde puisse aussi déclarer aussi sa solidarité avec la communauté, puisque évidemment, cette lutte qu'on a commencée, elle se fait pas juste, on peut pas la faire juste par les habitants de la communauté, c'est quelque chose qui doit être bien plus large. Donc ça, une seconde, je lis mes notes. Et on a aussi tout le comité aussi comment on appelle ça, d'avocats, d'architectes, etc., qui essaient de trouver les façons de pouvoir bloquer leur plan, le plan de gentrification de façon légale. Et le troisième, c'est aussi la défense, la protection de façon physique du voisinage. Donc voilà, qu'on ne laisse pas une attaque, une invasion se faire aussi dans le voisinage. Comme ça a déjà été informé et décrit, il me semble, c'est la grève de la faim. Donc la grève de la faim qui a commencé le 5 février, c'est Aristotle Isradis, un membre et habitant de la communauté qui a commencé cette grève de la faim. Et qui est né de cette décision collective de vouloir défendre jusqu'à la fin la communauté et ses acquis, et qui en réalité arrive comme une contre-attaque à leur plan. Et c'est comme ça qu'on le comprend, et c'est comme ça qu'il faut qu'elle soit comprise, pas comme quelque chose d'autre. C'est une contre-attaque par rapport à leur plan, et c'est en réalité la défense de la vie à tout prix. Et donc voilà. Cette grève de la faim, c'est une grève de longue durée, donc avec un régime vraiment bien spécifique, et avec de l'eau, du sel, du sucre, et des vitamines qui sont constituées en régime, que pour pouvoir aussi laisser le temps pour tout le monde de se mobiliser, de préparer et de mettre la pression adéquate sur le plan de la région d'Attique, mais du gouvernement en général. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la grève de la faim est de longue durée jusqu'à la mort. Je n'avais pas précisé. Donc, on parle d'une grève de la faim de longue durée jusqu'à la mort. Et Aristotle, a commencé, mais d'autres suivront. Donc, d'autres membres de la communauté suivront. Autant que cette lutte et la pression de l'État continuent à escalader. Escalader? J'espère que vous comprenez. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est limité à Aristotle, c'est quelque chose qui va être continué et ce choix va être soutenu par. La grève aussi de la faim va être aussi amenée à ramener d'autres membres de la communauté. J'espère que mon français était compréhensible sur cette part-là. Donc voilà, d'autres détails par rapport au plan de défense qui a été mis en place. Donc énormément déjà de personnes sont venues supporter la communauté au niveau local et international. Énormément d'internationalistes aussi viennent soutenir les structures de la communauté, soutenir les plans ici, et aussi par leur présence créer cette protection. Et aussi localement, énormément de gens qui passent chaque jour pour montrer leur support, de nombreuses assemblées qui se font dans le voisinage, des événements qui s'organisent ici, pour créer de plus en plus de vie en fait, et créer ce mouvement-là qui crée aussi comment on appelle ça, ce bouclier contre la répression. Et c'est évidemment quelque chose qu'on appelle à continuer de plus en plus, puisqu'on comprend que cette lutte-là ne commence pas aujourd'hui, ne finira pas demain, mais ça peut durer. Je prends un peu d'eau. Voilà, une chose aussi à mentionner, quelque chose qui a déjà été déclaré par la communauté il y a des mois d'ici, avant même ce plan de gentrification, c'est que la communauté a déclaré qu'elle allait réparer les bâtiments de façon autonome, et donc avec un autofinancement. Et avec l'organisation des forces vives qui a besoin pour la réparation des bâtiments. Donc c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Il y a déjà des travaux qui se font. Et c'est quelque chose qu'on veut continuer. Et c'est pour ça qu'on appelle à toutes les personnes qui seraient disponibles et qui voudraient supporter la communauté. Sachant faire des travaux, que ce soit plombier, électricien, maçon, quoi que ce soit, et ils ont la place. Et évidemment, ils sont le bienvenu que pour nous aider sur cette masse de travail. Puisqu'il y a énormément de travaux, énormément de travaux qui ont déjà été faits et qui ont transformé les bâtiments. Mais c'est quelque chose qu'on continuera pour toutes les prochains mois et les. Oui, les prochains mois. On va rester en mois. Et voilà. Et donc, pour pouvoir aussi. Je vais. Attendez. Oui, c'est ça. Je vais aussi nommer quelques appels qu'on fait aussi pour la solidarité avec la communauté. Premièrement, c'est évidemment tout le monde de parler de ce qui se passe. Le plus important, c'est ça, c'est de parler de la communauté, parler que c'est une lutte qui se fait en réalité du monde des communes, le monde de la commune contre le monde de l'État et du capital. Et c'est comme ça que ça doit être comprise. Et c'est ça qui se passe. Et que tout le monde puisse aussi déclarer, montrer sa solidarité par rapport à cette lutte-là. Et de pouvoir aussi organiser, que ce soit ce qui se passe aujourd'hui avec cette radio, des événements, et des articles, des textes ou quoi que ce soit, c'est super important que le plus de gens soient mis au courant de ce qui se passe. Après, on a évidemment le soutien financier qui est super important. On a un Fire Fund qui est à jour pour le moment. Je ne sais pas si on peut mettre le lien quelque part. C'est un peu difficile en radio, mais et tout ça est sur nos réseaux et sur le blog. Et évidemment, toutes les personnes qui seraient intéressées et qui voudraient venir aussi à la communauté est la bienvenue en envoyant un mail. Toute action aussi est la bienvenue. Et qui pourrait mettre une pression sur le gouvernement grec et exactement pour que cette lutte qui se passe ici, en fait, s'élargisse. Elle est déjà internationale, cette lutte-là, mais que ça devienne encore plus. C'est ça le but, c'est ça, c'est ça l'important pour le moment. Et quoi d'autre? Il y a plein d'autres choses, peut-être que j'oublie. C'est ça. Il y a aussi une plateforme de signature en ligne. Et donc, c'est des signatures sur comment on appelle ça, les exigences de la grève de la faim. Donc, je vous invite à regarder, à lire les textes et aussi à signer la pétition. De plus, on a de signatures, plus on peut jouer aussi sur le jouer, pas jouer, mais mettre la pression sur le plan de la région et le gouvernement.
C'est bon. Je reprends un peu ce que la camarade elle disait. On n'a pas pu l'appeler en direct, mais on est en contact tout le temps avec les camarades de là-bas. Notamment aussi parce qu'ils sont en Grèce et que ça coûte aussi d'appeler directement en direct par la radio en Grèce. Mais on la remercie. En fait, ce qu'on voit, c'est que, comme dans plein d'exemples, j'imagine ici que ça se fait pareil et qu'on pourra faire le parallèle avec ici de comment le gouvernement grec il va expulser tout. Enfin, il dit, il prétend faire des logements sociaux pour faire une propagande sociale dans les médias mainstream. Alors qu'il y a déjà des logements sociaux, c'est que des personnes, enfin la plupart des gens qui sont dedans, c'est des personnes vulnérables. Il y a des personnes, il y a 50 enfants comme on a dit, il y a des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des réfugiés, des immigrés. Et du coup, en fait, l'État, il va tous les, il veut tous les expulser, on dit expulser. Et du coup, il va les mettre à la rue. Et la plupart d'eux et de ces personnes, en fait, ils vont trouver la mort, ou ils vont être dans des conditions horribles. Ils vont être peut-être déportés, mis en prison. Et tout ça, ils font semblant que tout ça, ils veulent faire des logements sociaux derrière. Alors qu'en fait, en réalité, l'État, il veut prendre des millions d'euros de l'Union européenne pour. Et comme enfin, les projets grecs, ils prennent les sous et c'est les élites qui le gardent. Et c'est une honte, voilà. Donc, on peut faire le parallèle avec tout ce qui se passe ici, avec à chaque fois l'évacuation des squats, avec les politiques de logement mais en France, qui sont hyper répressives pour les personnes vulnérables et qui, au final, ce sont des politiques qui, depuis des années, des années, des années, semblant pour la société, enfin, pour une aide sociale, mais au final, ça profite de plus en plus aux élites. Et on ne résout pas les vrais problèmes de logement et on réprime les personnes qui en ont besoin. Et oui, je vais juste rappeler que tout ce que dont la camarade parlait, ça peut, on va les remettre aussi sur. Ça existe sur les réseaux sociaux, donc Instagram par exemple, de la compagnie internationaliste, c'est ant.saveprosphysica, ou bien le CIMC, enfin le Instagram de notre collectif du CIMC, où on publie régulièrement des informations. On pourra mettre les pétitions, on les traduira en français et tout ce qu'on peut traduire en français. Les appels, comme il a dit le camarade Thomas au début, ce qui se passe, c'est que les demandes en fait de la communauté et de la grève de la faim sont l'annulation immédiate du contrat de l'État, le fait que toutes les personnes de Prosfika restent à Prosfika, là où ils ont créé leur vie et leur lien, et que les bâtiments ils soient restaurés, mais par les habitants, les amis, par une société non à but non lucratif qui a été créée par les habitantes et les amis de Prosfika, et pas du tout par l'État. Et donc pour ça, il y a besoin de soutien économique, d'où les soirées de soutien qu'on fait partout, comme celle du 20 et du 20 mars et celle du 15 mars, qu'on rappelle le crowdfunding, la levée de fonds qui est sur le site de firefund.net tiré safe prosfika, qu'on remettra sur les Instagram du CIMC. Et qui se retrouve aussi sur les pages de Instagram de ant.saveprosfika. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis bien sûr, oui, il y a les appels pour de l'aide humaine pour aller restaurer et faire tous ces travaux dont il y a besoin à Prosfika. Je laisse la parole à Thomas pour nous faire un peu le parallèle, pourquoi en fait on parle de Prosfika et de l'actualité ici et dans tout le monde, et pourquoi ça concerne tout le monde, et voir un peu le parallèle historiquement et actuellement avec toutes les politiques des États répressives contre les plus vulnérables et contre toutes les formes d'auto-organisation.
Ouais. Eh ben, c'est sûr que ce qui se passe aujourd'hui à Prosfika, c'est ça trouve un écho. Enfin, évidemment local, parce que Marseille, la France, enfin tous les pays d'Europe sont évidemment pas épargnés en fait par cette répression contre les logements précaires, etc. Et donc en fait oui, la question des squats, elle est interdépendante de la question du logement et de l'habitat précaire. Et c'est dans ce contexte-là où la gentrification augmente sans arrêt dans les grandes villes, notamment Marseille, où en fait c'est l'État et la ville qui fabriquent ces dynamiques de mal logement pour favoriser donc la spéculation. On le voit avec la loi anti-squat qui protège davantage et encore plus les propriétaires et le droit à la propriété. Il y a un collectif, on le rappelle, sur Marseille, qui s'appelle le collectif Réquisition, qui a mis en lumière le fait que 16 000 logements vides, habitables à Marseille, ne sont donc pas utilisés et appellent la mairie à réquisitionner ces bâtiments et les mettre à disposition des personnes qui en ont besoin. C'est aussi. Donc le squat, c'est évidemment d'abord. Une solution qui n'est pas parfaite, mais qui reste pertinente dans la société dans laquelle on vit. C'est d'abord une volonté de répondre à des besoins de première nécessité. Donc, c'est ce qui a été dit par la camarade juste avant, c'est que, en fait, quand on met les gens à la rue, on les condamne parfois à la mort. Et ça, c'est vraiment, vraiment tragique. Dans les sociétés dans lesquelles on vit, on devrait pouvoir s'organiser collectivement pour se battre contre ça. Le squat dans un second temps, se surajoute en fait à cette réponse de besoin de première nécessité, une volonté de construire collectivement la vie commune. Et ça, évidemment, ça plaît pas du tout à l'État, parce que en fait, un squat, c'est un espace qui est affranchi de l'emprise de l'État. C'est un lieu qui est affranchi des règles autoritaires auxquelles on doit se subordonner, se soumettre. Et Et c'est un lieu où on peut expérimenter l'autonomie collective ici et maintenant. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est ce qui vraiment nous donne toute l'énergie de lutter et de défendre la communauté squattée de Prosvigica. C'est vraiment une volonté qu'on partage de reprendre possession du territoire, de regagner la terre qui est monopolisée par le grand capital, par le capital mondialisé, etc. Et ça permet aussi de pouvoir penser la lutte comme on le veut. Ça nous permet de pouvoir penser ce qu'on veut. Et ça, on en a terriblement besoin. Donc, des squats, c'est des foyers de résistance. C'est une organisation qui est essentielle pour les luttes locales aussi. On le voit à Athènes, que Prosvigica, c'est vraiment une base arrière pour les militants et les militantes. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui manque, en tout cas très fort à Marseille, depuis quelques années. Donc voilà, un peu... j'essaie d'insister un peu, de rappeler l'importance de cette lutte et de ces liens, des échos qu'elle peut avoir localement sur Marseille, pour inviter toutes les personnes qui se retrouvent dans ces valeurs et dans cet appel à rejoindre cette mobilisation, à soutenir la communauté et défendre ses acquis. Parce que tout simplement, en fait, tant que tout le monde ne sera pas libre, nous ne pourrons pas être libres non plus. C'est d'ailleurs un slogan qui est scandé à Prosvigica. Et notamment un autre slogan que tu vas peut-être pouvoir nous dire en grec.
Lequel? celui sur le squat.
C'était comment? C'était...
Non, le slogan, enfin, c'est comment il termine en ce moment, les camarades. C'est soit nous allons gagner, soit nous allons gagner. En fait, il n'y a pas d'autre choix. Ils disent Ithanikisme, qui est quelque chose de très fort. Et on n'a pas le choix, en fait. Et moi, avant de terminer l'émission, et en faisant encore une fois le lien, Thomas, si tu es d'accord avec... pour ramener un peu au lien quelque chose qui peut être... encore une fois, on peut faire le lien dans nos têtes. C'est l'implication d'un autre collectif internationaliste qui est à Prosvigica par rapport aux questions des frontières. Juste pour dire que, mais en fait, comme il l'a dit Thomas, qui peut-être à Marseille, ce qui nous manque, c'est peut-être un lieu où on peut organiser comme un Prosvigica. En fait, il y a toutes les luttes qui sont représentées et toutes les causes qui sont représentées. Et comme il y a un collectif, du coup, on va passer un petit vocal aussi des camarades de Borderless, qui est en anglais, du coup on va passer une petite partie, on va la traduire, pour montrer l'actualité des frontières. Mais Borderless, la plupart, ils viennent d'Allemagne, pas tous et toutes, mais pour dire, c'est encore une réalité à laquelle on peut faire écho ici à Marseille, notamment avec toutes les luttes qu'il y a, que ce soit dans les collectifs anti-CRA, les collectifs contre les lois immigration. Thomas, tu veux nous en parler un peu plus une fois qu'on aura entendu le vocal, pour refaire le lien et comprendre à quel point c'est des luttes internationalistes qui se retrouvent à Prosvigica.
The recognition of the community of Squatter plus Vika is also a recognition of the correct base that we need to give our struggles nowadays. Our struggles that the states and the capital are trying to break, try to separate. It's always hard to unite again, because there's many tendencies to separate us because of class differences, of race differences, and of gender differences. And in reality, these differences will not separate us, they will unite us if we manage to build communities. We will stand communally against the world of isolation and of capital and exploitation if we manage to unite also beyond some of the boundaries that the system is setting to us. The situation of refugees and migrants stays and becomes even more difficult nowadays because...
Ben ça, c'est le premier vocal que pour les personnes qui ne parlent pas anglais, un des camarades de Borderless qui explique la nécessité, comment l'État, en fait, il nous sépare, il crée des techniques, il a des techniques pour nous séparer, que ce soit pour notre race, notre genre, et toutes les catégories qui sont créées, et quelle est la nécessité, nous, de nous relier et de nous recréer des liens entre nous. Et on va aller un peu au vocal de l'autre camarade de Borderless pour faire un lien un peu plus précis de ce qui se passe à Prosfizika.
The recognition of the community of Scorta Prosfizika is also a recognition of the correct base that we need to give up.
As Borderless Collective, we came 4 years ago into the community. Initially, we followed a call to come to the Evros border. Erdogan had opened these days for people to cross, pressuring Europe financially. But shortly after, the situation had shifted already into another extreme, which is today the reality at all European borders. The area had been entirely militarized. Parastate fascist groups were armed, the society became complicit in the war on migration, and solidarity structures collapsed. Knowing that we do not know nothing to be anyhow supportive in that region, we came to Athens and were hosted by the community of Squatted Prosvika, who also helped us to find a perspective and to organize ourselves as a collective. In the community, many refugees.
Faut laisser un peu plus, un tout petit peu plus, pardon.
Ah oui.
Are requesting for housing. And with the escalation on the war on migration, we see that the requests are multiplying. In the past few months, many families lost their accommodation in the refugee camps from one day to another. Squatting is for many the last option. And since the mass evictions of squats in 2020 and 2021 in Athens, or in Greece in general, there are only a few squats left. Prosfika is a squatted community with over 400 inhabitants directly between the Supreme Court and the Central Police Department. There had been several attempts of gentrification in the last decades, but through the self-defense strategy of the community, none of them had been successful. Therefore, we are confident to say that the community does not only consist out of houses for people who need them, it will also protect the people no matter what. And as a consequence, Prosfika became a comparably safe.
Et oui, comme l'explique l'autre camarade aussi, c'est que Borderless, en gros, ils sont arrivés il y a 4 ans à Athènes. Au début, ils partaient vers la frontière entre la Turquie et la Grèce, à Evros, au nord, qui commençait par les accords d'immigration. La Turquie, elle fait énormément de pression par rapport au passage d'immigrés dans la frontière là-bas au nord. Et il y a énormément de crimes qui sont commis à cet endroit par l'État turc, l'État grec l'OTAN, qui sont complices tous dans ces politiques. Et donc, au bout d'un moment, ils sont descendus à Athènes, ils ont retrouvé la communauté qui les a incités à prendre des initiatives et trouver de la perspective dans la communauté. Et depuis, il y a énormément de camarades de Borderless qui ont une base stable à Prosfizika. Et ce qui se passe, c'est qu'avec les politiques migratoires, la guerre dans le monde, les conditions de guerre dans le monde, il y a de plus en plus de réfugiés et d'immigrés. Et du coup, ce qui se passe à Prosfizika, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui viennent aux assemblées générales pour demander des familles de réfugiés ou d'immigrés. Qui viennent demander un espace où se loger. Et du coup, c'est, on va dire, c'est un de leurs recours. Et ça arrive très, très souvent. Et Borderless, il travaille énormément dans ça. Il travaille aussi en lien avec les camps. C'est comme les camps de rétention dans des conditions horribles et fermées. Et les camps de réfugiés et d'immigrés en Grèce et Borderless, ils arrivent à avoir encore accès et pouvoir travailler aussi à l'intérieur, faire le lien. Et ce qui se passe, que la camarade, elle disait à la fin, c'est que du fait que Prosvika, c'est une communauté qui se défend depuis des années et des années contre les attaques répressives de l'État, ils savent qu'ils vont protéger aussi les familles et les personnes réfugiées et immigrées qui arrivent là-bas. Voilà pour la traduction. Je ne sais pas si tu veux dire deux, trois mots par rapport à ce qu'on a entendu et le lien avec tout ce qui se passe aussi à Marseille avant qu'on finisse avec l'émission.
Ouais, avec les quelques minutes qui nous restent, c'est vrai que donc c'était très important pour nous de souligner aujourd'hui la réalité de l'accueil en Europe, en Grèce, mais aussi en France, des personnes exilées, essayer de mettre un peu en lumière les politiques racistes de l'Union européenne et aussi au niveau des États-nations qui en font partie. On rappelle donc qu'il y a le pacte migratoire européen qui va rentrer en vigueur en juin de cette année. Donc c'est plus d'un milliard d'euros qui vont être alloués pour un budget annuel à partir de cette année à l'agence Frontex, donc qui est en fait une armée anti-migrants qui va bientôt compter plus de 10 000 soldats. Donc ça, c'est une réalité à laquelle on va devoir faire face dans les prochaines années et qui, malheureusement pour nos camarades grecs, ils sont vraiment en première ligne donc de cette forteresse Europe qui est mise en place par, par des personnes qui ont des idées xénophobes, qui portent le fascisme encore à l'heure actuelle. Et ça, évidemment, c'est intolérable et on se battra contre. C'est important aussi, donc, comme la camarade l'a souligné, que finalement, trouver une place et s'organiser à Prosvikika, ça a été un dernier recours. Et ça a été donc aussi une belle découverte pour les camarades, parce que, et pour les personnes évidemment en migration, les personnes exilées, parce qu'au sein de ces espaces libérés, en fait, ils peuvent retrouver des formes de vie en commun qui sont égalitaires, qui sont horizontales, et forcément c'est du coup des dispositions qui sont très différentes des centres d'accueil institutionnels qui sont dédiés aux personnes en mouvement. Et donc, au sein de ces communautés-là, il leur est possible de reprendre possession, de parler leur langue, d'être entendu, d'être comprise, d'être soutenu aussi, de retrouver de la dignité, parce que souvent, bien souvent, c'est des personnes qui sont passées par des expériences traumatisantes, d'accéder à des soins. Enfin, voilà, c'est toute une dynamique de solidarité avec les personnes exilées qui a lieu à Prosvikika, et qui est une raison d'être aussi sur place. Et je pense que ça fait vraiment aussi écho à beaucoup de luttes ici à Marseille. Donc vraiment tout notre soutien, on envoie tout notre soutien à Athènes et aux camarades de la communauté.
Merci Thomas pour ce lien que tu nous as fait. Je pense que ça va être petit à petit la fin de notre émission. Du coup, on remercie encore une fois Radio Galère de nous avoir accueillis aujourd'hui, de nous avoir permis de parler de cette situation. On rappelle que le 15 mars, nous organisons des projections à la base pour parler plus de Prosvikika. Et le 20 mars, nous organisons une soirée de soutien où, encore une fois, il y aura des informations par rapport à tout ce qui se passe et en même temps un concert de soutien de Rebetiko et des 1000 guitares, donc avec des chants révolutionnaires chiliens. Nous vous attendons nombreuses et nombreux. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Vous pouvez aussi retrouver toutes les informations sur les Instagram de la campagne internationaliste int.saveprosvika, le Instagram du CIMC où on essaiera de mettre les informations le plus régulièrement possible, c'est CIMC13. Nous vous appelons à rejoindre tous ces appels de solidarité, à nous écrire si vous avez des idées, si vous avez des contacts, à nous écrire au Instagram du CIMC si vous avez des contacts de journalistes, d'artistes, de personnes qui seraient intéressées à rejoindre et prendre toutes les initiatives possibles. Ben nous, on est ouverts et ouvertes à organiser des choses, des événements de solidarité, que ce soit dans la rue, que ce soit... Il faut vraiment, comme l'a dit la camarade, il faut que ça soit connu, il faut qu'on fasse pression, il faut diffuser. Donc, nous vous remercions encore une fois. Et bon après-midi, bonne soirée.
Merci pour l'écoute. Et nous gagnerons où nous gagnerons.
Ithanikishuma.
Φωτιά στη λίσσα των γραφικών δολοφόνων. Να φλέγονται τα κράνη των δελτάδων. Γιορτή, αυτή είναι η απάντηση που πρέπει των δρόμων. Καμιά ανοχή σε να ζει με στο λίπολο βαράνε. Το κάθε διαφορετικό. Την προσφύγα που πάλευε την μέρε στο νερό. Που έχουν το θράσος να μπουκάρουνε στις καταλήψεις. Πριν σου φορτώσουν καλιά, ρίξουν τις αποδείξεις.
Au milieu des cortèges, dans la nuit brûlante. Les pavés, les cocktails sont des étoiles filantes. On ira danser sur leurs balles sifflantes. Au parc à danser de la sirène hurlante. À nos frères, à nos sœurs, à nos rêves, à nos peurs. À la sève, à nos cœurs, à la grève, aux rancœurs. À nos miroirs marqueurs, à l'avenir tapageur. À nos rires, à nos pleurs, aux sourires ravageurs. Pour les tester, les contester, mental radical. Les cris de guerre sur la barricade. Qui s'en mélange aux larmes. Pour les tester, les contester, mental radical. Les cris de guerre sur la barricade. Qui s'en mélange aux larmes.
Είμαστε η γενιά των 500 ευρώ. Και πλέον μετανάστριες στο εξωτερικό. Η γενιά του Αλέξη, του Παύλου και του Ζάκη. Γι' αυτό και η αντίσταση για μας είναι ανάγκη. Που χτίσαμε με βέους και Μπογδάνους τις ειδήσεις. Μα φορμή επιδημίας ή επιχείρησης. Σκούπα σε μετανάστες δόλια. Επίθεση στα σπίτια του αγώνα. Και ό,τι προκαλεί αντίδραση. Στην αντεπίθεση μας ξέρουνε καλά. Ποτέ μας το κεφάλι δεν κρατάμε χαμηλά. Απ' την Αθήνα στην Τουλούζη κοινάνε τα οράματα. Ένα, τρία, ένα, δύο ραντεβού στα οδοφράγματα.
Je me néglige, moi je suis comme toi, toutes leurs préoccupations me dépriment. Ça parle de nombril à la plage, de carrière de mode à la page. Tape dans le tas, adapte-toi au casque, toi en exil. Beaucoup se plaignent, mais pas grand monde sur la barricade. Ils plaident pour le vote, puis sont trahis, mais ne contestent pas. Tout là-haut, frangin, le message est capté. Ils savent bien que la mémoire s'éteint avec tous leurs écrans télé. Pour les tester, les contester, mental radical.
Des
cris de guerre sur la barricade. Qui s'en mélange aux larmes.
Déjà plus coucou, l'espace, la matière, ma stipsane.
Pour les tester, les contester, mental radical.
Des
cris de guerre.